il y a bien un grand mélange puisqu'on va parler d'actualité locale et ma foi aussi internationale et ancienne ou très récente. Donc dans les actualités, tout de suite je le nomme, la sortie de Bye Bye Dubai, Wendy, donc une lyonnaise, enfin tous les cas qui habite à Lyon et qui sort un album chanté en pop anglaise, Real Life. C'est très très bien, moi je suis très contente de vous faire découvrir cet album, j'aime beaucoup, c'est un univers assez électro, sympathique, avec plein de synthé et une très jolie voix. Gonna tell you, well, I'm gonna tell the really kill or be killed. Kill or be killed. Alors avec quelques extraits de textes de lecture, je verrai en fonction de mon humeur aussi pareil. Donc j'ai fait une pile de CD, puis je vais les enchaîner, donc ce sera la surprise.
Babylonian gardens. empty races and the car's gone became the waves core. I laid my head, laid my head in construction sign. Laid percussion. I laid my head, laid my head in the TV of my neighbor. Played the song of the angel. Gossip of the crowd made the birds moan, the birds moan, the birds moan. Oh, oh, caught on my seat bird. Oh, swear. Oh, caught on my seat bird.
Avec ces petits oiseaux, j'en profite pour vous annoncer les prochaines dates donc des concerts de Bye Bye Dubai. C'est le morceau, donc le groupe que vous venez d'entendre, qui à l'origine c'est Wendy qui est l'origine de ce projet. Derrière ce nom, il y a une personne qui fait tout, la composition, les textes, les voix, les synthés, la guitare et même les loupes pédales. Alors il y a quelques musiciens additionnels sur l'album. Alexis Morel Journel qui fait la basse et la percussion, et Simon Dijou, je lui fais coucou, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, tiens, je savais pas que c'était Simon qui s'occupait de l'album, qui joue de la harpe Odyssée. Alors ah, c'est un synthétiseur, un harpe Odyssée et une boîte à rythme Alesis. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer celui qui a finalisé cet album, Jean-Luc Briançon. On écoutera un morceau d'un CD qu'il a fait. En fond sonore, je fais tourner. Alors je vais vous annoncer les dates de Bye Bye Dubai. Je découvre l'album en même temps que vous, mais ce morceau Real Life avait déjà été passé dans cette émission en version MP3. Donc l'album est sorti il y a quelques temps. Et par contre, vous pouvez aller sur internet aussi voir les clips. Alors le dernier qui a été aussi créé par Wendy, c'est sur le titre Throat It All. Donc si vous tapez Bye Bye Dubai, vous pouvez trouver le clip qui correspond à ce titre là. Et pour les prochaines dates, donc il y a le 15 janvier au Remue Méninges à Saint-Étienne. Voilà. Et puis je vous le redirai, donc la semaine prochaine, le 29 janvier, c'est les Bons Sauvages, c'est à Lyon, c'est à la Mulatière. Apparemment c'est un lieu où on peut se restaurer. C'est à côté du 5e, à côté du Sonic, pour ceux qui connaissent. C'est pas très loin du tunnel de Fourvière, sur les quais. Donc, j'ai pas plus d'infos sur le lieu. Donc, les Bons Sauvages, le 29 janvier. Ce concert, par contre, elle détaille. Ce concert commencera à 20h30 avec la belle Baby B. Donc, j'ai pas le son pour l'instant, mais je vais essayer de découvrir aussi qui est cet artiste. Donc, il fait guitare, voix, country, blues, gospel en première partie. Et donc, Bye Bye Dubai qui jouera en deuxième partie. Donc, le 29 janvier au Bons Sauvages. Et si vous êtes à Saint-Étienne, la date est déjà passée, le 15 janvier, j'avais pas vu la date. Ce sera la prochaine date. Et donc, le prix, c'est 5€. Voilà. Et il y en aura une autre aussi le 18 février. C'est au CHRS de l'Armée du Salut, avenue Thiers à Lyon. Et après, il y en aura une autre à Valence, pour les gens qui habitent à Valence, le 20 février au Lézard Café. Et ça, j'aurai le temps de vous le redire. Cette fois, c'est pas passé. Alors cette fois, je vous propose d'écouter, donc j'ai l'occasion de découvrir donc l'univers de Jean-Luc Briançon, un spécialiste des synthétiseurs analogiques. Mmh. Vous venez donc d'écouter Last Dance of Yggdrasil, j'espère que je le prononce bien, donc avec Wendy Martinez sur ce morceau, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc c'est un double CD qui est collector, hein. Je crois qu'il y a 100 albums selon ce voilà, édité en version limitée. Donc c'est la production de Jean-Luc Briançon, ou prénommé Kurt Mainfield. Voilà, le double album s'appelle Journeys Through the Analog Adventure. Donc il parcourt à peu près une quarantaine d'années de l'évolution de la musique des synthés analogiques. Donc le disque 1 c'est 2015-85 et le disque 2 c'est 84-70. Donc là on a écouté sur le disque 1 la période 2015-85. Je vais revenir sur Bye Bye Dubai, donc le projet de Wendy, puisque je vous ai parlé du clip que vous pouvez revoir sur internet en tapant Slow Title de Bye Bye Dubai. Donc on va écouter le titre qui correspond. donc c'est le 8e morceau de l'album Real Life de Bye Bye Dubai. Vous pouvez trouver le clip en tapant Bye Bye Dubai Sword It All sur Google. Eh bien, je vais vous parler de morceaux du livre que j'ai amené. Je vous l'avais déjà amené en fait, mais je vais vous en relire un extrait pour ceux qui n'écoutent pas régulièrement les émissions. Ça s'appelle Jean-Marie Pelt, avec la collaboration de Franck Stéphane, donc Jean-Marie Pelt qui a malheureusement disparu pendant les périodes de Noël. La raison du plus faible, donc c'est un botaniste, biologiste. C'est un professeur donc, de biologie végétale et de pharmacologie à l'université de Metz et président de l'Institut européen d'écologie. Voilà. Alors, pour dire un peu la préface, je l'avais déjà lu l'autre fois. Alors que l'on s'apprête, de 2009. Alors que l'on s'apprête à célébrer en 2009 le 150e anniversaire de la théorie de l'évolution fondée par Darwin dans l'origine des espèces, ce nouvel essai de Jean-Marie Pelt s'emploie à récuser la fameuse loi de la jungle, qui dans une nature réputée cruelle serait le seul moteur de l'évolution. Il montre qu'il existe une raison du plus faible tout au long de l'histoire de la vie sur Terre, des premières bactéries jusqu'à l'homme, là où les plus gros et les plus forts n'ont pas su résister aux grands cataclysmes et aux changements climatiques. Ce sont souvent les créatures les plus humbles qui ont survécu. C'est aussi parmi les plus faibles que sont nées les plus belles histoires de solidarité. Par la symbiose. C'est enfin chez les plus vulnérables que l'ingéniosité adaptative a développé ses plus belles inventions. Notre société humaine, livrée à un esprit de compétition exacerbé où les tueurs de la guerre économique sont venus renforcer les rangs des guerriers dans la lutte pour le toujours plus, est promise au même cataclysme financier ou nucléaire si elle n'entend pas cette leçon de la nature qui fait de l'égoïsme la maladie mortelle des plus forts et de la solidarité la force indéfectible des faibles. Dans cet ouvrage fourmillant d'anecdotes, puisé au cœur du monde végétal et animal, Jean-Marie Pelt s'en donne à cœur joie pour nous raconter l'extraordinaire énergie des petits réputés faibles. Alors l'autre fois, je vous avais parlé un petit peu du premier chapitre et surtout de l'introduction. Je vais vous lire une partie donc, de ce monde fabuleux des bactéries. Alors, je démarre sur la cellule qu'on appelle aussi la cellule à noyau eucaryote. La cellule, encore un coup de génie. Il y a 1 milliard d'années, voire un peu plus, un miracle se produisit au sein des océans où la vie continuait d'être reléguée. Plusieurs bactéries s'associèrent, donnant naissance aux premières cellules caractéristiques des plantes et des animaux, les cellules à noyaux ou eucaryotes, celles-là même qui constituent notre corps. Une bactérie chlorophyllienne, cyanobactérie, décida de partager sa vie avec une autre bactérie sans doute beaucoup plus grosse. S'associa à ce processus symbiotique une troisième bactérie spécialisée dans la production d'énergie, car possédant un métabolisme adapté à cette fin. Ainsi naquit la première cellule végétale avec son chloroplaste, la bactérie chlorophyllienne apte à faire la photosynthèse, et sa mitochondrie, usine énergétique de cette cellule. Dans certains cas, le processus symbiotique alla plus loin encore. Un quatrième micro-organisme en forme de virgule ou de tire-bouchon vient rejoindre le trio. C'est l'ancêtre du flagelle, servant à ces premiers organismes unicellulaires à se mouvoir dans l'eau des océans, et dont le cil de nos spermatozoïdes reste le témoin 1 milliard d'années plus tard. Cette extraordinaire symbiose, mise en lumière par la biologiste américaine Lynn Margulis, est aujourd'hui communément admise par la communauté scientifique. Elle est la seule hypothèse crédible concernant l'apparition des premières cellules à noyaux. La vie est passée par là, du stade des bactéries, cellules minuscules et sans noyaux, à celui des êtres monocellulaires à noyaux, dotés au nom de chlorophylle, et que l'on range selon ce critère parmi les végétaux ou les animaux. Puis les cellules eucaryotes s'organisèrent entre elles, formant les êtres multicellulaires dont nous sommes, les mêmes mécanismes symbiotiques créant des entités de plus en plus complexes. La morale du scénario mise en scène par Lynn Margulis est claire. Quand 4 bactéries s'associent, elles ouvrent une nouvelle étape de l'histoire de la vie, car la symbiose est toujours créatrice et constitue un processus essentiel de l'évolution. Elle est l'arme des petits, des faibles qui s'unissent pour faire plus, mieux ou autrement. Un étrange scénario a été mis en scène par un biologiste de l'université de Tennessee, Kwon Jeon. En 1966, ce chercheur découvrit que des amibes cultivées dans son laboratoire étaient parasitées par des bactéries. La plupart d'entre elles périrent, mais quelques-unes survécurent, sans pour autant s'être débarrassées de leur hôte bactérien. Il semblait même qu'elles en contrôlaient le nombre par un processus analogue au quota d'immigration, digérant leurs bactéries en surnombre. Ce chercheur venait de découvrir le passage du parasitisme à la symbiose. Il le prouva par une expérience concluante. Partant d'une amibe intacte qui n'avait jamais été infectée par une bactérie, il en préleva le noyau et le remplaça par celui d'une amibe qui vivait depuis des années en compagnie de bactéries. Cette amibe, ainsi modifiée, ne parvint pas à survivre. En revanche, s'il la réinfectait par des bactéries, l'amibe recouvrait sa vitalité. Elle se remettait à prospérer et à se diviser. La cohabitation avec les bactéries lui était devenue indispensable. On imagine aisément le profit que deux êtres peuvent tirer de l'établissement entre eux d'une symbiose. L'addition de leur patrimoine génétique rend le symbiote, fruit de cette symbiose, capable d'effectuer des performances qu'aucun des deux partenaires n'eût pu réaliser seul. Pascal disait que le tout est plus que la somme des parties, et l'on connaît le phénomène d'émergence de propriétés nouvelles liées à des gains de complexité. Teilhard de Chardin insista sur ce point en montrant que la vie est née d'une extrême complexification de la matière, en l'occurrence l'ADN, découvert 2 ans avant sa mort. De même, c'est d'une formidable complexification du cerveau qu'est née la conscience. Teilhard parlait du pas de la vie et du pas de l'esprit. À chaque fois, un immense pas en avant, le franchissement d'un seuil décisif. On peut dès lors imaginer que la vie s'est développée comme une sorte de jeu de construction agençant de petites entités, réalisant par symbiose des entités nouvelles. Ensuite seulement intervint la sélection naturelle, autre mécanisme fondamental qui allait trier et conserver les symbioses performantes en éliminant les autres. Bref, la vie créée par symbiose et tri par sélection. Il est regrettable que la biologie moderne soit si peu attentive aux symbioses et si obnubilée par la sélection. On ne compte plus les êtres vivants en symbiose, comme par exemple les lichens ou les coraux. Un lichen est un être double chez qui coexistent et coopèrent des cellules algales et les filaments d'un champignon. Dans les cas des coraux, des algues font de même avec des animalcules, les polypes. Passer un contrat d'entraide avec plus petit que soi pour aller vers une symbiose est généralement tout bénéfice pour les deux partenaires. On pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Tenons-nous-en pour l'instant aux seules bactéries avec cette belle histoire que nous rapportent Martine Castello et Vae Zatarian. Alors, l'histoire qu'ils nous racontent après, c'est l'histoire d'un calamar au clair de lune. On va faire une petite coupure musicale.
Ah.
Voilà, c'était encore un petit extrait de l'album de Bye Bye Dubai et ce morceau s'appelait, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a 2-8, il y a une petite erreur d'impression, Let's Share the Dust. Allez, on continue avec donc cette petite conte d'un calamar au clair de lune, extrait de La raison du plus faible de Jean-Marie Pelt. Un calamar au clair de lune, c'est celle d'un calamar hawaïen qui ne prise guère la lumière puisque durant le jour il se cache sous le sable des hauts fonds marins. La nuit, il remonte à la surface pour trouver sa nourriture. Mais notre calamar n'est pas romantique et redoute les clairs de lune des îles Hawaï, fort périlleux pour lui. En se déplaçant à la surface de l'eau, il projette sur le fond une ombre qui permet à ses prédateurs nageant sous lui de le repérer et de le happer. Le calamar a donc trouvé une parade à cette menace. Il s'est transformé en un émetteur légèrement lumineux, produisant une lueur diffuse qui se confond avec les reflets de la lune sur l'eau. Impossible dès lors de le repérer et de l'attaquer. Il est devenu invisible. Pour produire sa lumière, le calamar a besoin de l'aide d'une bactérie appropriée, Vibrio fischeri. Un vibrion proche de celui plus redoutable qui provoque le choléra. Les vibrions, comme leur nom l'indique, vibrionnent, affectant la forme d'une virgule. Les jeunes calamars viennent au monde sans leur vibrion symbiotique. Il leur faut aller les pêcher en mer. D'habiles processus d'attraction chimique attirent les vibrions vers le calamar qui leur réserve un organe ad hoc. Les vibrions se dirigent vers cet organe spécialisé, s'y introduisent, perdent leur flagelle, s'immobilisent, réduisent leur taille et commencent à émettre une lumière qui se confond avec l'éclat de la lune. Voilà le calamar camouflé et les vibrions à l'abri, à l'intérieur d'un hôte qui leur assure protection et nourriture. Expertes en matière de symbiose, les bactéries vivent dans une féconde promiscuité. Allez voir s'agiter dans une goutte d'eau, la vie nous apparaît comme un phénoménal balai. Des êtres minuscules se reconnaissent par des émissions chimiques, mais parfois aussi par des ondes électromagnétiques. Ils se rapprochent, s'assemblent ou cohabitent, se rendant des services mutuels. L'écologie se définit comme la science des interdépendances entre les êtres vivants, résultant des relations qu'ils entretiennent entre eux. Relations antagonistes dans la compétition pour la nourriture, le territoire, le partenaire sexuel, mais relations amicales comme dans le vaste monde des symbioses, du mutualisme et du commensalisme où la nourriture est judicieusement partagée. sur ce fond de Kurtz Mayfield que je vais vous parler de Khalil Gibran, un auteur que j'apprécie beaucoup. Alors le titre qu'on entend en fond sonore s'appelle Valse of the Sandworms. C'est un morceau qui dure un peu plus de 7 minutes. On est vraiment dans l'esprit un peu Klaus Schulze, voire beaucoup même. Alors Khalil Gibran, Les ailes brisées, c'est traduit de l'anglais par Thierry Gillibeuf. Et publié en 1912, Les ailes brisées est l'un des premiers livres de l'écrivain libanais Khalil Gibran. Inspiré de son amour pour une jeune femme de son village natal, ce texte poignant laisse entendre pour la première fois dans la littérature arabe le refus d'une femme orientale d'être considérée comme un meuble, achetée et livrée d'une maison à l'autre. L'histoire impossible entre Selma Karami et celui que l'on devine être Gibran est plus qu'une confession amoureuse et un chant pastoral. C'est une critique sociale et morale qui fustige le statut misérable des femmes brimées par des siècles de traditions misogynes. Je vous avais déjà lu aussi un extrait des Ailes brisées. Je vais vous lire cette fois le passage qui s'appelle « Lac de feu ». Tout ce qu'un homme fait secrètement dans l'obscurité de la nuit sera clairement révélé à la lueur du jour. Les mots prononcés en privé deviendront, contre toute attente, une conversation ordinaire. Les actes que nous cachons aujourd'hui dans les recoins de nos chambres seront rapportés à chaque coin de rue demain. Ainsi, les fantômes de l'obscurité révélèrent-ils l'objet de la rencontre de l'évêque Pulos Galib avec Faris Effendi Karami. Et cette conversation fut répétée dans tout le voisinage jusqu'à ce qu'elle parvienne à mes oreilles. La discussion qui eut entre l'évêque Bulos Galib et Faris Effendi cette nuit-là ne portait pas sur les problèmes des pauvres, ni sur le sort des veuves et des orphelins. La véritable raison pour laquelle l'évêque avait envoyé quérir Faris Effendi et l'avait fait venir dans son attelage privé était la demande en mariage de Selma pour son neveu Mansour Bey Galib. Selma était la seule héritière du riche Faris Effendi. Et le choix de l'évêque s'arrêta sur Selma, non pas en raison de sa beauté et de son âme élevée, mais à cause de l'argent de son père qui garantirait à Mansour Bey une bonne et prospère fortune et ferait de lui un homme important. En Orient, les chefs religieux ne satisfont pas de leur propre munificence. Ils doivent s'efforcer de faire de tous les membres de leur famille des personnages haut placés et tyranniques. La gloire d'un prince revient à son fils aîné en héritage, mais l'exaltation d'un chef religieux est contagieuse parmi ses frères et ses neveux. Ainsi l'évêque chrétien, l'imam musulman et le prêtre brahman deviennent de véritables reptiles qui s'emparent de leur proie avec de nombreuses tentacules et sucent leur sang avec d'innombrables bouches. Quand l'évêque demanda la main de Selma pour son neveu, il reçut pour toute réponse de la part de son père un profond silence et des larmes, car il détestait l'idée de perdre sa seule enfant. L'âme d'un homme tremble quand il est séparé de sa fille unique, qu'il a élevée jusqu'à ce qu'elle devienne une jeune femme. Le chagrin des parents au mariage d'une fille est égal à leur bonheur au mariage d'un fils, parce qu'un fils fait entrer un nouveau membre dans la famille, tandis qu'une fille, de par son mariage, est perdue pour eux. Faris Effendi fit par obligation bon accueil à la requête de l'évêque, obéissant à sa volonté contre son gré. Faris Effendi connaissait fort bien le neveu de l'évêque. Il savait qu'il était dangereux, que c'était un homme haineux, mauvais et corrompu. Au Liban, aucun chrétien ne peut s'opposer à son évêque et continuer d'occuper une bonne place. Aucun homme ne peut désobéir à son chef religieux et conserver sa réputation. L'œil ne peut résister à une lance sans être transpercé et la main ne peut saisir une épée sans être tranchée. Supposons que Faris Effendi ait résisté à l'évêque et refusé d'accéder à son désir, alors la réputation de Selma eût été ruinée et son nom aurait été souillé. Pour le renard, le raisin qu'il ne peut attraper sur les plus hautes branches est sûr. Ainsi la destinée s'empara-t-elle de Selma et la mena-t-elle comme une esclave humiliée dans le cortège des femmes orientales malheureuses. Ainsi, ce noble esprit tomba-t-il dans le piège après avoir voler librement sur les ailes blanches de l'amour dans un ciel de clair de lune empreint de l'odeur des fleurs. Dans certains pays, la richesse des parents est une source de malheur pour les enfants. Le grand et solide dépôt que les parents ont constitué ensemble pour la sauvegarde de leur richesse devient une prison étroite et sombre pour les âmes de leur descendance. Le tout-puissant dinar que le peuple adore devient un démon qui punit l'esprit et assourdit le cœur. Selma Karami était l'une de ces victimes de la richesse des parents et de la cupidité des futurs mariés. N'eût été la richesse de son père, Selma vivrait toujours dans le bonheur. Une semaine passa. L'amour de Selma était mon seul moteur, fredonnant des chansons de bonheur pour moi la nuit et m'éveillant à l'aube pour révéler le sens de la vie et les secrets de la nature. C'est un amour céleste, ignorant la jalousie, riche et jamais nocif pour l'esprit. C'est une profonde affinité qui baigne l'âme dans le contentement. C'est une soif ardente d'affection qui, quand elle est étanchée, remplit l'âme de bonté. Une tendresse qui crée l'espoir sans agiter l'âme, changeant la terre en paradis et la vie en un rêve doux et beau. Le matin, quand je marchais dans les champs, je voyais la marque de l'éternité dans l'éveil de la nature. Quand je m'asseyais près du rivage, j'entendais les vagues qui entonnaient le chant de l'éternité. Quand je marchais dans les rues, je voyais la beauté de la vie et la splendeur de l'humanité dans le mouvement de la foule et les gestes des travailleurs. Ces jours passaient comme des fantômes et disparurent comme des nuages. Et bientôt, il ne me resta plus que de tristes souvenirs. L'œil que j'utilisais pour regarder la beauté du printemps et l'éveil de la nature ne pouvait rien voir d'autre que le futur, que la fureur de la tempête et la misère de l'hiver. Les oreilles avec lesquelles j'entendais auparavant avec délice le chant des vagues ne pouvaient entendre que le hurlement du vent et le courroux de la mer contre le précipice. L'âme qui avait observé avec bonheur l'infatigable vigueur de l'humanité et la gloire de l'univers était rongée par le spectacle de la déception et de l'échec. Rien n'était plus beau que ces jours d'amour et rien n'était plus amer que ces horribles nuits de chagrin. Quand je ne pus résister davantage à mon élan, je me rendis une fois encore, en fin de semaine, dans la demeure de Selma, le sanctuaire que la beauté avait érigé et que l'amour avait béni, dans lequel l'esprit pouvait adorer et le cœur s'agenouiller humblement et prier. Quand j'entrais dans le jardin, je ressentis une force qui m'éloignait de ce monde et me transportait dans une sphère surnaturellement affranchie de tout combat et de toute épreuve. Comme un mystique qui reçoit une révélation des cieux, je me vis parmi les arbres et les fleurs, et quand j'approchais de l'entrée de la maison, j'aperçus Selma, assise sur le banc à l'ombre du jasmin, où nous nous étions assis tous les deux la semaine précédente, cette nuit que la Providence avait choisie pour le début de mon bonheur et de mon chagrin. Elle ne bougeait ni ne parlait, tandis que je m'approchais d'elle. Elle semblait savoir intuitivement que je venais, et quand je m'assis auprès d'elle, elle me regarda un long moment, soupira profondément, puis détourna la tête et regarda le ciel. Au bout d'un moment, emplie d'un silence magique, elle se tourna à nouveau vers moi et en tremblant. Elle me prit la main et dit d'une voix faible « Regarde-moi, mon ami, scrute mon visage et tu y liras ce que tu veux savoir et ce que je ne puis te dire. Regarde-moi, mon bien-aimé, regarde-moi, mon frère. » Je la fixai attentivement du regard et vis que ses yeux, qui il y a quelques jours souriaient comme des lèvres et bougeaient comme les ailes d'un rossignol, que ces yeux-là étaient déjà submergés par le chagrin et la souffrance. Son visage, qui ressemblait au pétale d'un lys déplié, offert au baiser du soleil, s'était fané et avait perdu toutes ses couleurs. Ses douces lèvres étaient comme des roses flétries que l'automne a laissées sur leurs tiges. Son cou, qui avait été une colonne d'ivoire, était courbé comme s'il ne pouvait plus supporter le poids de la peine que contenait sa tête. Je vis tous ces changements sur le visage de Selma. Mais pour moi, il n'était qu'un nuage qui passe, recouvre un moment la face de la lune et la fait paraître plus belle. Les traits qui révèlent une tension interne ajoutent davantage de beauté au visage, peu importe ce qu'ils expriment de tragédie et de douleur. Mais le visage qui silencieusement n'annonce aucun mystère n'est pas beau, en dépit de la symétrie de ses traits. La coupe n'attire pas nos lèvres, à moins qu'on ne voie la couleur du vin à travers le cristal transparent. Selma, ce soir-là, était comme une coupe emplie d'un vin céleste concocté par l'amertume et la douceur de la vie. Inconsciemment, elle symbolisait la femme orientale qui ne quitte jamais la demeure de ses parents, jusqu'à ce qu'elle mette sur son cou le lourd joug de son mari, qui ne quitte jamais les bras de sa mère et monte jusqu'à ce qu'il lui faille vivre en esclavage et endurer la méchanceté de sa belle-mère. Je continuais de regarder Selma et d'écouter son âme s'affliger, souffrant avec elle jusqu'à ce que je sente le temps s'arrêter et l'univers perdre toute existence. Sans toute existence, je ne pouvais voir que ses deux grands yeux qui me regardaient fixement et ne sentir que sa main froide qui tremblait en tenant la mienne. Je m'éveillais de ma torpeur en entendant Selma dire calmement « Approche-toi, mon bien-aimé, discutons de l'horrible futur avant qu'il ne vienne. Mon père vient juste de quitter la maison pour aller voir l'homme qui va être mon compagnon jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon père, que Dieu a choisi pour guider mon existence, va rencontrer l'homme que le monde a choisi pour être mon maître, pour le restant de mes jours. Au cœur de cette ville, le vieil homme qui m'a accompagné durant ma jeunesse va rencontrer le jeune homme qui sera mon compagnon pour les années à venir. Ce soir, les deux familles fixeront la date du mariage. Quelle heure étrange et impressionnante. La semaine dernière, à cette même heure, sous ce jasmin, l'amour étreignait mon âme pour la première fois, tandis que le destin écrivait le premier mot de l'histoire de ma vie dans le palais de l'évêque. À présent, tandis que mon père et mon soupirant arrangent le jour du mariage, je vois ton esprit trembler autour de moi comme un oiseau assoiffé, volette autour d'une source d'eau, gardée par un serpent affamé. Oh, que cette nuit est grande et que son mystère est profond. Ayant entendu ces mots, je sentis le fantôme sombre du découragement total s'emparer de notre amour pour l'étouffer dans sa prime enfance. Et je lui répondis, cet oiseau continuera de voleter au-dessus de cette source jusqu'à ce que la soif le détruise ou qu'il tombe dans l'emprise du serpent et ne devienne sa proie. Elle rétorqua, non mon bien-aimé, ce rossignol demeurera vivant et chantera jusqu'à ce que l'obscurité vienne, jusqu'à ce que le printemps passe, jusqu'à la fin du monde et il continuera de chanter éternellement. Sa voix ne devra pas se taire parce qu'il apporte la vie dans mon cœur. Ses ailes ne seront pas brisées parce que leur mouvement fait disparaître le nuage de mon cœur. Puis je murmurai, Selma, ma bien-aimée, la soif l'épuisera et la peur le tuera. Elle répliqua immédiatement les lèvres tremblantes. La soif de l'âme est plus douce que le vin des choses matérielles et la peur de l'esprit est plus chère que la sécurité du corps. Mais écoute, mon bien-aimé, écoute bien. Je suis aujourd'hui au seuil d'une vie nouvelle dont je ne sais rien. Je suis comme un aveugle qui tâtonne sur son chemin pour ne pas tomber. La richesse de mon père m'a mise sur le marché aux esclaves. Et cet homme m'a acheté. Je ne sais pas l'aimer, mais j'apprendrai, je lui obéirai, je le servirai, le rendrai heureux. Je lui donnerai tout ce qu'une faible femme peut donner à un homme fort. Mais toi, mon bien-aimé, tu es encore à la fleur de l'âge. Tu peux marcher librement sur le vaste chemin de la vie recouvert de fleurs. Tu es libre de traverser le monde, de faire de ton cœur une torche pour éclairer ton chemin. Tu peux penser, parler et agir librement. Tu peux écrire ton nom sur le visage de la vie parce que tu es un homme. Tu peux vivre comme un maître parce que la richesse de ton père ne te mettra pas sur le marché aux esclaves pour être acheté et vendu. Tu peux épouser la femme de ton choix et avant qu'elle ne vive sous ton toit, tu peux la laisser résider dans ton cœur et échanger des confidences sans obstacle. C'était Khalil Gibran, Les ailes brisées. C'était Patchworld en direct tous les vendredis de 16h à 17h sur les ondes de Radio Canus 102.2. Ne quittez pas dans quelques instants Lilith Martin et les autres. Je vous rappelle donc l'album de Bye Bye Dubai qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est le Real Life. Et puis Bye Bye Dubai en concert le 29 janvier, ça s'appelle Les Bons Sauvages à la Mulatière à côté du 5e, à côté du Sonic. Et en première partie, il y aura la belle Baby B, guitare, voix, country, blues, gospel. Voilà, c'est 5 euros l'entrée et on peut manger sur place. Puis une autre petite info aussi, la semaine prochaine, normalement, on a les Olibrius, un groupe de la Loire qui vient nous rendre visite. J'en profite pour faire un petit coucou à David, le batteur. For travels, you came to the right place. Well, I'm gonna tell you. Well, I'm gonna tell. They're really killed, are we killed?